Donc bonjour à ceux et celles que j'ai pas saluées, et aussi vous transmettre les salutations de Robert et Sylviane, donc les salutations suisses. J'ai reçu un petit mail hier de Robert nous disant qu'ils étaient bien avec nous ce matin. Voilà. Alors, à mon avis, rentrent aujourd'hui ou demain. Tu pensais qu'ils étaient rentrés? Ah ben alors, je sais pas, mais... Ils sont peut-être en train de dormir. Voilà, Seigneur, on te remet ce message et on te demande vraiment que chacun d'entre nous puisse y puiser ce que toi tu as prévu. C'est vrai que on a des besoins différents, mais on a le même papa qui pourvoit. J'aimerais débuter cet enseignement par la lecture dans Marc 10, à partir du verset 32. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit les 12 à part et il leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. » En fait, Jésus ne peut pas être plus clair concernant ce qui va arriver au Fils de l'homme, c'est-à-dire à lui-même. Il tient à prévenir à nouveau ses disciples afin qu'ils soient prêts pour ce moment de détresse et peut-être afin qu'ils puissent le soutenir par leurs prières. Et Jésus termine cette mise en garde par une promesse, la résurrection. C'est pas une fin. Alors, à quoi on pourrait s'attendre de la part des disciples après une telle parole de Jésus, où il dit ses souffrances à venir à Jérusalem, vers laquelle il se dirige, sur sa mort atroce, sur sa résurrection? À votre avis, que pouvaient être les réponses de Jésus, des disciples à Jésus? On ne veut pas. Oui, c'est une possibilité. Ne va pas à Jérusalem. Pas bien. Eh bien, je dois dire que j'ai été scotchée quand j'ai lu la suite. Parce qu'alors, on voit Jacques et Jean. Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» dit Jésus. Ils répondent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans la gloire. » Accorde-nous d'être l'un à ta gauche et l'autre à ta droite quand tu seras dans la gloire. Pas Seigneur, pas, va pas à Jérusalem, va pas ceci, fais pas cela, donne-nous. Et en fait, Jacques et Jean, ils ont compris quelque chose d'essentiel. Ils ont compris que même s'ils sont en train de vivre leurs derniers jours, peut-être leurs dernières heures avec Jésus, peut-être ils se disent à quoi quoi ça sert? À quoi bon tenir bon dans cette épreuve? À quoi bon rester fidèle à ses côtés? Et comment soutenir le maître dans une telle difficulté? Jacques et Jean, c'était deux des disciples. Ils ont passé 3 années à bourlinguer avec Jésus sur les routes de Galilée et de Samarie. Ils ont été témoins de miracles, et vous les connaissez. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu des multiplications de pain et de poisson, il y a eu la tempête apaisée. Combien de fois Jésus est venu apaiser les tempêtes au fond de nos cœurs? Et comme le maître le leur a demandé, ils ont eux aussi fait des miracles. Donc ils savent que Dieu, que Jésus est capable de faire tout ça. Mais là, à quelques kilomètres de Jérusalem, ils font un bond en avant. Ils font un bond à travers le temps et l'espace. Non, ils ne sont pas capables d'accompagner Jésus jusqu'à son dernier miracle. Le plus grand de tous, même si dans un premier temps, il semble être le plus grand échec de tous, le plus grand échec de leur maître. En fait, il s'agit pour Jésus de Nazareth, le Messie tant attendu, de remporter la victoire décisive de Dieu sur Satan lui-même, en lui ôtant son pouvoir sur la mort. Mais pour cela, un passage obligé, la croix, la souffrance, l'agonie, la mort. La mort pour le salut du plus grand nombre dont nous faisons partie aujourd'hui au XXIe siècle. Mais pour Jacques et Jean, c'est trop dur. C'est vraiment incompréhensible. C'est pas du tout dans leur entendement humain. Alors les deux frères se projettent dans l'avenir et pensent résolument à après l'épreuve. Après l'épreuve, après la trahison, après l'atrocité des souffrances de leur maître sur la croix, après sa mort et même après sa résurrection, ils vont plus loin que la résurrection. Ils vont là-haut. Ils vont dans l'espace et le temps, à quelques milliers d'années-lumière et d'années de je ne sais quoi. Ils vont dans la gloire. Quand tu seras là-haut dans la gloire? Nous, on veut avoir les premières places. On veut avoir les places de choix. On ne les aura peut-être pas quand tu seras à la croix, on ne sera peut-être pas à tes côtés. Mais quand même. Je veux dire que dans un premier temps, j'ai été outrée par la requête de Jacques et Jean. Je me suis dit, mais ils ne voient pas la détresse de leur maître. Ils ne voient pas que le Seigneur a besoin d'eux. S'il leur dit ça, c'est... c'est pour les prévenir de mettre en marche leur foi pour essayer de tenir bon. Mais non, ils vont faire un bon spatio-temporel. Pour se retrouver dans une situation plus cool, plus sympa, dans la paix, la joie, la gloire. Plus de tracas, et aussi pour être dans un contexte plus valorisant. Ils seraient à la droite, à la gauche et à la droite de Jésus. Je suis souvenue alors de ce que nous dit régulièrement Robert quand on est aux études bibliques le mardi soir depuis septembre. Il nous parle de deux personnes, les deux épouses de Jacob, Léa et Rachel. Léa, sont nos contingences de tous les jours. C'est l'habitude, c'est la réalité, c'est la dure réalité. Et parfois, elle peut être dure, notre réalité. C'est un corps, je vais prendre mon exemple, c'est un corps qui vieillit. Mes mains, mes oreilles, mes pieds, voilà. On a des petites choses, des petites et des grandes. sont des combats spirituels, des relations parfois tendues, des bien-aimés qui s'en vont. À chacun son lot de misère. Mais en même temps, nous faut penser à Rachel, à la vision, à l'espérance, à l'amour. Rachel, c'était la femme que Jacob aimait et pour laquelle il a passé 14 années au service de son beau-père Laban. 14 années. C'est long, hein, 14 ans à attendre. Hein. Oups. Je passe rapidement sur le dialogue de Jésus avec les 12, où il leur rappelle qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour beaucoup. Et c'est l'ordre de mission qu'il a donné aux disciples et qu'il nous donne aussi. Et là, après ce recadrage, cet arrêt sur image et ce bon recadrage, Jésus, les 12, la foule se remettent en route. On a fait un stop et puis voilà, on est reparti. Et ils arrivent à Jéricho. Jésus et les disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus lui dit alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, répondit l'aveugle, « Fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. On va essayer de se mettre un peu dans la scène. On va entrer dans le contexte, etc. On va voir les éléments en présence. Et d'abord, il y a un chemin. Un chemin qui mène à Jéricho. Et Jéricho, c'est une ville à 8 kilomètres à l'ouest du Jourdain, à 27 kilomètres de Jérusalem. C'est une des plus vieilles cités du monde, Jéricho. J'aimerais vous lire un passage dans Deutéronome 32 qui parle de Jéricho. Il y a beaucoup, beaucoup de passages qui parlent de Jéricho dans l'Ancien Testament. L'Éternel s'adresse à Moïse. Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Après la sortie d'Égypte et après les 40 années dans le désert, l'Éternel promet de donner au peuple juif, au peuple d'Israël, le pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Et quelques siècles plus tard, que promet Jésus alors qu'il se trouve à Jéricho, en route vers Jérusalem? Il annonce notre Canaan, et ce ne sont pas des terres riches, prospères, à perte de vue. Non, notre Canaan, c'est la ville éternelle. C'est la gloire, mais au prix de la vie du Messie. Et je crois que c'est, on le trouve dans le partage de Jésus avec Jacques et Jean. Hein. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et puis il dit, mais moi je veux être servi, je ne veux pas servir. Et je veux donner ma vie pour beaucoup. Et c'est ce donner ma vie pour beaucoup qui est notre héritage. Et c'est à cause de ça qu'on aura la présence de Jésus, la vie éternelle auprès du Père. Mais pour l'instant, on est dans notre réalité de Léa. Donc sur ce chemin, on trouve Jésus, les disciples, une foule nombreuse. Et si vous fermez les yeux, vous pouvez imaginer la scène. Il fait chaud, la poussière vole partout. Pour ceux qui sont allés en Israël, alors qu'il fait entre 35 et 40 degrés, la poussière blanche fait des nuages quand on passe, et une foule, ça en secoue des nuages de poussière. Et si vous avez besoin, ben imaginez-vous dans la braderie de Lille, en plein milieu de la braderie de Lille, alors qu'il y a énormément de monde, et vous êtes au coude à coude pour avancer vers ce que vous avez prévu d'acheter. Voilà. Et là, dans cette foule, non, pas dans la foule, à côté de la foule, au bord du chemin, assis dans la poussière, Bartimée, un aveugle mendiant. Il est là, certainement assis dans la poussière, peut-être comme il l'était d'habitude, régulièrement. Le matin, on l'amenait pour mendier, le soir, on le ramenait, ou bien peut-être il restait là et dormait dans son manteau, qui était devenu sa maison. Il nous est parlé de Bartimée, fils de Timée. Mais là, dans cette situation, alors que la foule passe et qu'il est là par terre, où est son père? Pourquoi son père ne s'occupe-t-il pas de lui? Il y a peut-être des raisons diverses. Où est sa mère? En fait, Marc l'évangéliste aurait peut-être pu écrire Bartimée, fils de personne ou fils de rien. Et parfois, au fond de nos cœurs, on peut se sentir des fils ou des filles de personne. Et dans notre société actuelle, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui se sentent comme des fils et des filles de personne, qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de vécu. Et ils sont bourlingués une fois ici, une fois là, ou bien il n'y a rien du tout. Et je me dis, mais je me dis plein de choses, mais je les garde pour moi. Donc Bartimée est au bord du chemin, mais pas dans la foule, il n'est donc pas dans le courant de la vie. Et la foule passe tel un flot immense. Elle emporte avec elle Jésus. Et Bartimée est aveugle, mais il n'est pas sourd. Vous savez que lorsqu'on perd un de nos sens, lorsqu'un de nos sens est défaillant, et ça m'est arrivé ces derniers temps d'avoir mes oreilles qui jouaient la castafiore, je vous dis qu'on développe les quatre autres. Et Christophe m'a dit hier, quelqu'un qui ne voit pas a une bonne ouïe, un sourd a une bonne vue, et celui qui a une jambe trop courte, l'autre est plus longue. Voilà, ça c'est mon mari. Alors oui, Bartimée ne voit rien, mais il entend. Et il entend que dans la foule, il y a quelqu'un de spécial. Jésus de Nazareth, emporté par la foule. Je ne vais pas vous chanter la chanson de Piaf, hein, ce sera un désastre. Hein. Mais vous la connaissez comme une ritournelle. Et je vais simplement m'arrêter sur quelques paroles dans ce texte. Et pour moi, il y a le cri, il y a l'appel, il y a le SOS de Bartimée. SOS, ça veut dire « Save our soul ». Sauve notre âme, sauve-nous. C'est important, hein. C'est pas sauve mon petit corps malade ou mon grand corps malade selon les circonstances. C'est sauve mon âme, sauve-moi tout entier. Alors quand il crie, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, SOS. Le monde est en état d'ivresse, a dit dans une de ses chansons Gérard Briand. SOS. Et en fait, quand l'aveugle, Bartimée, déclare, hurle dans la fosse, « Fils de David, aie pitié de moi », cette appellation « fils de David », c'est le nom que les Juifs donnaient au Messie tant attendu. C'est pas Jésus de Nazareth, c'est pas Jésus, c'est pas Seigneur, c'est pas ouh là-haut, là-bas. Non, c'est fils de David, aie pitié de moi. Toi, le Messie tant attendu, tu es là et j'ai besoin de toi. Il est en train de passer, ce Messie, et Bartimée, pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Il ne veut pas le laisser passer. La foule immense lui dit, lui oppose, mais chut, tais-toi, tu déranges le maître. Chut. Ça vous est déjà arrivé d'être dans un culte où il y a des enfants? Ça nous arrive. Et parfois, quand ils sont un peu trop bruyants, chut, tais-toi, tu déranges Robert ou tu déranges le maître. Et Jésus, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, appelez-le. Arrêt sur image, appelez-le. Et enfin, avant, je voudrais vous dire que l'enfer, c'est l'enfermement. Et Jean-Paul Sartre a dit, l'enfer, c'est les autres. Mais l'enfer, pour moi, c'est vraiment l'enfermement. C'est-à-dire être comme emmuré. Il n'y a peut-être pas pire enfermement que la cécité. Quand on ne voit pas, on ne peut pas communiquer. On ne peut pas communiquer sur la nature, sur la création, sur les gens. On ne peut pas dire, oh, qu'elle est jolie cette petite fille. Oh, c'est merveilleux. Oh, la tour Eiffel. Ben non, je ne vois pas la tour Eiffel. Je ne vois pas la petite fille, je ne vois pas les fleurs. Je ne vois pas. Et puis les gens, ils n'ont pas de visage pour un aveugle. Moi, quand je vois quelqu'un, quand je vois Odette, quand je vois Christophe, quand je vois Rémi, je vois quelque chose, je vois quelqu'un. Et j'investis cette personne en disant, oh, il a des beaux traits, elle a un beau sourire. Mais là, je ne vois rien si je suis aveugle. Et puis, il y a aussi l'enfermement de tous ceux à qui on a pris la parole. À ceux à qui on dit aujourd'hui dans le monde, chut, vous dérangez. Chut, on est dans le progrès. Chut. Tous ces mendiants, tous ces gens qu'on supporte plus de les voir mendier dans les rues. Mais aussi tous les estropiés de la vie, quels qu'ils soient. Et il y en a des estropiés de la vie, des emmurés du cœur, il y en a. Alors, quand Bartimée entend se appeler-le, et qu'on lui dit « Courage, lève-toi, il t'appelle », à ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. C'est le jour J pour Bartimée. Et dans la vie, dans nos vies comme dans la vie de nos contemporains, il y a des jours J, des jours de la rencontre à ne pas laisser passer. Et alors que Bartimée était au bout du chemin, à l'écart, à côté du courant de la vie, pour rejoindre Jésus, alors qu'il ne voit toujours rien, faut saluer ça. Bartimée ne voit encore rien, mais il se lève et à l'oreille traverse la foule. Faut le faire. Hein. Il y en a qui ont cette énergie de vie, de se lever, de laisser leur manteau et de traverser la foule pour aller jusqu'au pied de Jésus, pour atterrir littéralement à ses pieds. Et cette question, mais elle en a fait couler de l'encre, cette question de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bah pour moi, ça m'a toujours paru une aberration. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il est aveugle. Et voilà. Et je crois que quand Jésus donne la parole à l'aveugle face aux disciples et à la foule qui voulait le faire taire, cette foule parfois indifférente ou hostile, Jésus responsabilise Bartimée et il lui permet d'exprimer son besoin, d'oser dire son espérance, parce que c'est une espérance. Maître, fais que je vois. Et Jésus va nous responsabiliser toujours, toujours plus, chacun, pour nous permettre de nous approcher de lui, lui dire notre besoin, nous accrocher à ses promesses. Je me suis permise de donner un peu la parole à Bartimée dans ce qui va suivre, car il a certainement plein de choses à nous apprendre. Alors j'aime bien donner la parole aux gens, surtout quand ils n'ont pas eu pendant longtemps. Et j'ai dit de la part de Bartimée, « Maître Rabouni, fais que je vois. Parce que tu le sais bien, si je vois, j'existerai enfin pour les gens qui sont autour de moi. Je serai quelqu'un d'autre qu'un mendiant dont on a pitié, quelqu'un qui dérange les consciences. J'aurai à nouveau un nom, mon nom, Bartimée, et non pas l'aveugle mendiant Bartimée. » Et puis j'ai tellement, tellement entendu parler de toi. Ces derniers mois, régulièrement, quand les gens passaient, quand la foule passait, j'entendais dire « Ah, il a encore fait un miracle là !» Et puis il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Vous vous rendez compte ? Il a libéré un monsieur qui était dans le cimetière tout nu et il fallait des hommes et des hommes pour le tenir. Et puis d'un seul coup, il a libéré. Alors moi, je t'ai entendu, Jésus. J'ai entendu tout ça. J'avais entendu parler de toi, mais je veux te voir un peu comme Job. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est son espérance à Bartimée. Je veux vérifier avec mes deux yeux, pas avec un seul, ce que j'ai entendu est vrai. Si tu es vraiment le fils de David, si tu es vraiment le Messie capable de me sauver, moi, Bartimée. Alors, à la requête de l'aveugle, Bartimée, Jésus va répondre. Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Dans d'autres versions, il est écrit, tu es sauvé. Marche, mets-toi en marche. Et aussitôt, c'est important, hein, les miracles, et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin en louant Dieu. Il est reconnaissant. Et je crois que dans nos vies, la reconnaissance, c'est cadeau. Quand on est reconnaissant, on a un cœur qui s'élargit. À la gym, on nous fait faire de la respiration ventrale, abdominale, et là. Et quand on voit un miracle, quand on voit les merveilles de Dieu, on a un cœur qui s'élargit. Et là, j'ai l'impression que quand Jésus parle, sa parole crée la guérison et l'aveugle voit. Comme pour dans la création, Dieu dit et les choses viennent à la vie. Alors j'ai continué mon petit dialogue entre Jésus et Bartimée, parce qu'un dialogue c'est les deux, c'est pas qu'un. En fait, Bartimée, tu es le premier acteur de ta guérison, car tu as osé crier avec persévérance. Et puis tu t'es levé, tu as quitté ton manteau, peut-être toute ta richesse. Mais aussi tu as décidé de quitter ta condition de mendiant, de malheureux chronique, d'assister. Tu as osé croire, et après tu as osé me déranger, alors que je suis en route vers Jérusalem, vers ma destinée finale. Et je me suis laissée déranger par toi. Je me suis laissée déranger par toi. Et le Seigneur se laisse déranger par nous. Tu as de la chance, Bartimée, car tu vois maintenant ce qui t'entoure. Mais surtout, tu vois avec tes yeux spirituels. Je te souhaite, Bartimée, et on peut mettre notre prénom, de rester ouvert à la vie que je te donne, non pas simplement au miracle physique de ta vue recouvrée, mais au miracle spirituel. Tu as reconnu le Fils de David, le Messie. Alors surtout, ne referme pas les yeux. J'imagine qu'à cet instant, Jésus a dû se rappeler la demande de Jacques et Jean quelques minutes auparavant. Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Ce sont eux qui demandent une requête, alors que Bartimée va d'abord dire « Fils de David, Jésus, toi qui es le Messie, aie pitié de moi. » Alors dans ce message, je n'ai pas abordé, parce que ce serait beaucoup trop long, la question des Bartimées mendiants de notre époque. Ils sont nombreux de par le monde, dans nos grandes villes de France. Mais nous savons que le Seigneur ne les oublie pas et il nous demande de ne pas les rejeter. Peut-être simplement trois questions avant de terminer. Est-ce que je suis aveugle spirituellement, voire aveuglé par mes soucis, mes tempêtes, mes tristesses, mes angoisses pour demain, mes pourquoi, mes ras-le-bol? Est-ce que je suis dans l'impossibilité de discerner les choses spirituelles? Bien, est-ce que j'ai besoin de voir Jésus à l'œuvre dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de rencontrer Jésus dans un cœur à cœur, loin du tohu-bohu de mon quotidien tellement surchargé? Et puis Jésus me pose peut-être la question aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous pouvez y ajouter votre nom à la place de Bartimée et prendre le temps de lui répondre. Ô Seigneur, j'aimerais que tu viennes et que. Voilà. Je vous laisse la parole dans la prière, parce que vous pouvez vraiment répondre à cette question que Jésus nous pose toujours. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu es présent au milieu de nous et que tu connais chacun de nos cœurs, que tu sais là où on est, assis, couché dans la poussière, au milieu de la foule, à tes pieds. Tu sais si nous avons connu ce miracle de la nouvelle naissance, si nous sommes en marche. Mais je te loue de ce que tout est possible au Fils de Dieu pour chacun.